Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement remercier Frame34, Laurent Bourdon, Miak Miak, Florian Piochot et Enzo G7. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission, sans lesquels elle n'existerait évidemment pas du tout. Et si vous aussi, vous pensez que l'émission vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à faire un petit tour sur patreon.com/rdvtech pour voir si vous souhaitez la financer également. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on se réunit avec différents intervenants aux différentes expertises pour vous parler de ce qui s'est passé d'important, d'intéressant, d'informatifiant dans le monde de la tech. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mes deux comparses du troisième mardi du mois, à savoir Jeff Clavier qui nous rejoint de la Silicon Valley et depuis son cabinet d'investissement. Je ne sais pas comment on dit, comment ça va Jeff ?
Bah écoute, ça va très bien. Pour une fois, il fait pas beau, il fait pas chaud et on a un des airs les moins respirables au monde à cause de ces monstrueux feux de forêt qui brûlent à 300 km de San Francisco. Donc c'est très rare, mais là, c'est pas trop la joie.
Mais je pensais pas que vous en subissiez les conséquences aussi loin, parce que c'est vrai que toi, tu es dans la Silicon Valley et les feux, c'est plutôt, si j'ai bien compris, vers Los Angeles, donc très au sud, non ?
Non, tu as deux feux. Ah. Tu as feux à Malibu qui sont effectivement à 800 km au sud et on n'en a pas de conséquences, enfin, si ce n'est les images horribles que l'on voit de toutes ces maisons qui sont en train de brûler. Mais il y a le feu au nord dans Butte County qui est à peu près à 100 km au nord de Sacramento, donc grosso modo 250-300 km au nord de San Francisco. Et à cause en fait de la façon dont la géographie en fait se positionne et les vents qui nous ramènent toutes les fumées, on s'est retrouvé la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, où San Francisco avait l'air le plus pollué de la planète. Pire que New Delhi, pire que Beijing, pire que les grandes villes de Chine. Mmh. Et c'était quasiment irrespirable, quoi.
D'accord. Bon, on pourrait en parler pendant longtemps. C'est pas le sujet de l'émission, mais j'espère que vous prenez soin de vous et que les choses sont maintenant un petit peu plus contrôlées par les autorités.
J'espère un peu mieux ce matin et je me suis trimballé avec mon molécule, donc mon purificateur d'air et mon masque pour venir au bureau à San Francisco.
Oulala, d'accord. C'est vrai que molécule, j'en ai entendu parler de plusieurs personnes qui font des podcasts, et visiblement, c'est un truc qui est assez, qui est assez utilisé et qui a été assez utile suite à ces problèmes de feu et de particules dans l'air, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais. Tu vas nous parler de comportement de géants de la tech que je ne comprends pas forcément. On va faire en fait trois petites études de cas sur trois sujets que j'ai réunis en un méta-sujet sur lesquels tu vas pouvoir nous éclairer parce que tu comprends ce genre de choses-là dans la première partie de l'émission. Mais on a aussi Marion qui se joint à nous depuis Paris cette fois-ci. Comment ça va, Marion ?
Bonjour, écoute, ça va, la forme ? Tout va bien, on n'a pas de feu, donc on va pas se plaindre. Il fait froid, mais ça va.
Oui, j'ai cru comprendre qu'il faisait plus froid à Paris que dans ma campagne finlandaise. Donc,
t'as combien, toi ?
Bon, là, c'est retombé, on est à moins 2. Mais quand il faisait 3 chez vous, il faisait 8 ici. Donc j'étais un petit peu fier pendant quelques jours. Oula, qu'est-ce qui se passe ?
Désolé,
il y a des klaxons.
Il y a des klaxons juste sous mes fenêtres et je peux pas faire grand chose pour les arrêter.
D'accord. Bon, si tu peux juste.
Je vais me muter.
D'accord, pas de problème. Bon, bah maintenant que le point météo est terminé en access prime time de l'émission, on va pouvoir parler tech un petit peu. Comme je le disais, on va suivre ou essayer d'expliquer un petit peu les comportements de Snap, d'Uber et d'Amazon dans la première partie sur trois cas précis que Jeff pourra nous éclairer un petit peu. On va ensuite parler dans la partie news et rumeurs de Bitcoin, de lentilles de contact de Google, de fonctionnalités du Pixel, Pixel Phone, de Sony qui quitte l'E3, d'Instagram, enfin de tout plein de choses évidemment. Mais on commence avec ces trois études de cas, en quelque sorte, sur lesquelles je vais mettre Jeff sur, assis au bureau, et je ne vais pas le laisser partir jusqu'à ce qu'il nous ait expliqué de manière claire tous ces détails. Le premier sur lequel j'aimerais que tu nous expliques la chose, c'est cette affaire de procès lancée contre Snap, la société évidemment qui édite Snapchat, l'application à succès qui est un petit peu moins à succès maintenant que Instagram a volé toutes ses fonctionnalités. C'était l'application des Jones. Et en fait, on a vu cette news qui m'a un petit peu intrigué, selon laquelle le département de la justice américain et la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, qui s'occupe de la gestion on va dire en gros pour schématiser de la bourse aux États-Unis, ont envoyé des demandes à Snap suite à un procès fait par des actionnaires de Snap au moment de son entrée en bourse, qui disent que Snap a sous-estimé la menace que représentait Instagram dans ses documents qui expliquaient l'état de la société pour son entrée en bourse. Et moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans toute cette histoire, c'est le rôle de Snap dans l'évaluation de sa situation. C'est-à-dire qu'ils devaient estimer les risques que posaient les concurrents, et en l'occurrence, les actionnaires disent que Snapchat a caché le risque que représentait Instagram pour avoir une valeur boursière plus élevée lors de l'entrée en bourse. C'est d'une part, est-ce que c'est bien ça? C'est bien ce que je comprends. Et d'autre part, toi, tu as de nombreuses sociétés qui entrent en bourse, j'imagine, à un moment de leur évolution. Quand on fait une entrée en bourse, c'est si compliqué que ça. Il faut être capable d'estimer le danger que représentent les concurrents de manière aussi précise, parce qu'ils ont dit quand même, oui, Instagram a implémenté les stories, donc ça représente un danger qui risque de limiter notre croissance, mais ils auraient dû aller plus loin. Je comprends pas bien ce qu'ils auraient dû faire, en fait.
Bon, on pourrait passer un épisode entier pour essayer de répondre à tes questions, qu'on va essayer de faire court. Donc y a plusieurs choses que tu traites dans ta question, et je vais essayer de les adresser. Alors, petit 1, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un ensemble de boîtes d'avocats qui ne font qu'une chose, c'est de faire des plaintes contre des boîtes publiques. Et dès qu'il y a un événement quelconque où tu vois que l'action tombe de 10, 15, 20%, tu peux être sûr que sous un ou deux jours, tu vas avoir une press release d'une de ces boîtes d'avocats disant que la société est en sous investigation, qu'ils vont regarder s'ils vont déposer plainte, class action lawsuit, machin, etc. Et ça se passe de façon super courante. Donc,
tu as l'air d'insinuer que c'est des pratiques un petit peu malhonnêtes de ces boîtes. Est-ce que c'est ce que tu dis, ou est-ce que c'est moi qui interprète ?
C'est pas malhonnête, c'est la loi. Aux États-Unis, n'importe qui peut attaquer n'importe qui et ne pas avoir à payer les frais de défense. Donc ça veut dire qu'il y a une industrie entière de cabinets d'avocats qui ne font que ça. Donc, d'accord. C'est en gros, ils disent on va chercher un plaintif qui a vu ses stocks perdre ses actions, 10, 15, 20%, ses actions 10, 15, 20%, et puis après on va essayer de trouver d'autres personnes qui ont eu la même perte, et après ils lancent ce qu'on appelle une class action lawsuit, je ne sais pas s'il y a l'équivalent en France.
Oui, c'est un procès en réunion, je crois,
ou un procès de groupe, et donc c'est l'idée où tu vas mettre 3 ou 4 ou 10 plaintifs sur ta liste, et en gros après tu vas dire, parce que ces 10 personnes ont eu un dommage, on va certifier le fait que l'ensemble des actionnaires de la boîte ont eu le même dommage.
C'est une industrie
qui existe depuis des années.
Tu pars de la base de ces quelques actionnaires qui ont eu un problème, et ça touche, enfin tu lances le procès au bénéfice de tous les actionnaires, pas juste des plaintifs.
Tous les actionnaires.
Mais là, on a quand même le département de la justice et la SEC qui s'en mêlent. Ce sont eux qui ont envoyé les demandes d'information, les fameux subpoenas.
Tout à fait. C'est ça qui est un peu surprenant. C'est-à-dire que sans cet aspect-là, sans que la SEC et le DOJ s'en mêlent, ce serait en fait faire du business en tant que boîte publique qui est listé sur le Nasdaq ou sur le NYSE, que d'avoir de façon, un peu aléatoire, des gens qui viennent dire que tu n'as pas fait ton boulot et que, de fait, ils vont t'attaquer. Et effectivement, quand tu vas public, tu vas soumettre un document qui s'appelle le S1, c'est ton S1, hein,
le document qui détaille l'état de la société.
Qui détaille ton business, etc. Et tu vas avoir dedans l'ensemble des risques que tu vas lister, de tous les trucs qui pourraient dérailler ta boîte. Et c'est là où tu y vas, parce que par définition, tu vas lister tout ce que tu peux imaginer, parce que par définition, c'est l'ensemble des trucs les plus tordus possibles que quelqu'un pourrait, avec lequel quelqu'un pourrait t'attaquer, que tu vas mettre dedans en disant ça peut arriver, de manière à créer un espèce d'écran protecteur autour de la boîte en disant c'était couvert dans les risques dans le S1 et donc regarde, c'était écrit là.
D'accord. Et en l'occurrence, ils ont parlé d'Instagram. Donc est-ce que là, c'est une le procès dit ils en ont pas assez parlé, ils ont sous-estimé le risque. Selon toi, bon, tu connais pas les détails du truc, mais est-ce que ce procès a des mérites? Est-ce qu'il y a quelque chose de crédible dans l'idée que Snap a sous-estimé volontairement la menace d'Instagram?
Le grand mot, c'est volontairement. C'est-à-dire que ce qu'il faut pouvoir démontrer, bon, l'action de Snap s'est cassé la gueule, hein. Ils tradent à une fraction de la valorisation avec laquelle ils ont été publics, donc les gens qui ont acheté les actions à l'IPO ont perdu de l'argent sur le papier, ceux qui ont acheté les actions plus tard alors que Snap était en train vraiment d'augmenter, ils ont perdu de l'argent sur le papier, et Evan Spiegel, le CEO, a une espèce d'attitude envers les marchés en disant « fuck you, je fais ce que je veux », parce que c'est un petit trou du cul de 28 ans et qu'il se moque des marchés, malgré le fait que en tant que patron de boîte publique, tu dois te servir les marchés ou à la limite d'y répondre. Et en fait, ce que la plainte dit, c'est qu'ils avaient identifié que Instagram allait avoir un effet super négatif sur leurs revenus et sur leur communauté en termes de chiffres, de rétention, etc., et qu'ils l'ont caché. C'est-à-dire qu'ils ont en quelque sorte diminué l'impact dans leur communication pour que tout le monde achète leurs actions, etc., etc.
Ouais, pour avoir un bon lancement, quoi. Donc ça,
Et donc, ce qui va se passer maintenant, c'est va y avoir un système, enfin un processus qu'on appelle le discovery, je ne sais pas comment ça se dit en français,
L'enquête en fait.
Les avocats vont aller faire des perquisitions chez Snap, ils vont accéder aux ordinateurs de Spiegel, de machin, de trucs, et ils vont aller chercher une preuve qu'ils savaient que Instagram aller leur faire du mal et qu'ils l'ont caché volontairement.
Mmh, d'accord, donc c'est vraiment c'est ça, cet aspect volontaire de... Ouais. Et c'est
en
intéressant...
Gros, masque d'information.
Mmh. C'est intéressant d'entendre à quel point ces entrées en bourse, en fait, c'est pas juste... Ça y est, on entre en bourse, on engrange l'argent, c'est la fête, on ouvre le champagne. Enfin, je suis sûr qu'il y a beaucoup de ça aussi, mais il y a une préparation qui est très technique, quoi.
Oui, et puis tu vois, juste un exemple. Donc, une de mes sociétés, SendGrid, a été rachetée, a eu une offre de rachat de la part d'une autre boîte technique, Twilio. Donc, c'est une transaction qui a été approuvée par les deux boards. Et le lendemain... tu avais une boîte d'avocats qui signifiait que le board de Twilio allait être le board de SendGrid allait être investigué pour savoir s'ils avaient n'avaient pas manqué à leur responsabilité fiduciaire en signant la transaction.
Et ah oui,
en fait,
d'accord.
Ce qu'ils vont essayer de démontrer, c'est que on n'a pas demandé assez d'argent à Twilio. Et puis derrière, tu vas sur la stock de Twilio et tu vois la même chose où les mecs disent que Twilio a payé trop cher pour SendGrid. Donc ça, cette pratique, ça fait partie du tous les jours d'être le patron d'une boîte publique aux États-Unis. Le CEO de Fitbit a dû être attaqué, je ne sais même plus s'il compte, mais entre 50 et 100 fois maintenant.
D'accord. Bon, intéressant, effectivement, on va voir ce qui advient de cette affaire. La petite différence peut-être, effectivement, c'est que le département de la justice et la SEC s'en mêlent. Un autre sujet que je voulais évoquer, ça sera peut-être un petit peu plus rapide, c'est la conférence d'investisseurs d'Uber qui a annoncé qu'au troisième trimestre, ils avaient perdu 1 milliard de dollars. 939 millions de dollars pour être précis. Par contre, leur revenu a augmenté de manière significative, presque 40%. Donc, ils sont à 3 milliards de revenus, mais avec des pertes de 1 milliard de dollars. Donc, si je calcule bien, ça veut dire que ça leur coûte pour gérer la société 4 milliards par trimestre. Mais quand on voit ce genre de chiffres, on a un peu l'impression qu'on est dans on est dans une sorte d'histoire de fou où une société peut perdre 1 milliard de dollars en un trimestre, et c'est même pas qu'ils perdent 1 milliard sur un revenu de 15, quoi. C'est sur un revenu de 3. Comment est-ce que c'est possible qu'une société comme ça ait tellement le vent en poupe ? Parce qu'on parle souvent de potentiel, mais là, ça a l'air quand même... je ne sais pas comment décrire la chose, mais ça a l'air exagéré, abusif, quoi, ce genre de choses. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est commun ? Pourquoi est-ce que Uber peut se permettre ce genre de choses ? Ou est-ce que toutes les sociétés de ce type se permettent ce genre de choses ?
Bienvenue dans le monde merveilleux de la Silicon Valley. Non, c'est vrai que la Uber, en fait, est exceptionnel pour l'envergure, en fait, de la plateforme, de ses revenus et de ses pertes. Mais si tu me demandes, est-ce que ça te fait peur que Uber perde 1 milliard sur 3 milliards de revenus, sachant que leur grosse, donc combien de transactions vont sur la plateforme, je crois que c'est de l'ordre de 20 milliards.
Ils sont un petit peu en dessous, ils sont à 13 milliards de transactions sur la plateforme et les revenus, c'est ce qui revient à la société elle-même. Donc ensuite, il y a une partie de l'argent qui va à d'autres acteurs.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand tu prends un Uber, tu vas payer une partie au chauffeur, tu vas payer une partie... Donc c'est pour ça que tu as le gros qui est à 13 milliards, le net qui est à 3 milliards. Et en fait, je pense que ce qui a été exceptionnel avec Uber, c'est leur capacité à développer... de façon internationale leur service. On sait que ils ont décidé de plus pousser l'Asie, etc., etc. Donc ils ont un périmètre qui est plus réduit qu'ils ne l'avaient, qui était une source de pertes énorme. Mais ils sont en train de développer des projets autour des voitures autonomes. Ils ont la partie Uber Eats. Ils sont en train de regarder les taxis autonomes aussi. Donc les avions ou les hélicoptères qui te prendraient et qui te déposeraient plus tard, machin. Et donc, ça veut dire qu'ils vont dépenser énormément d'argent en acquisition de clients. Ils vont dépenser énormément d'argent en nouvelles technologies, ils sont en train d'embaucher à tour de bras, ils sont en train de prendre des locaux. Donc, c'est une boîte qui est en croissance très, très forte. Et donc, dans cette espèce de d'arc où ils continuent à investir sur la croissance future de la plateforme et des revenus, non, ça ne me choque pas. Je crois que leurs revenus, le montant des transactions a continué à augmenter, mais pas de façon aussi importante que par le passé, ce qui n'est pas étonnant, parce que quand tu regardes, le net new, ce qu'on appelle le net new, c'est-à-dire quelle est l'augmentation d'une année à l'autre ou d'un trimestre à l'autre, ce sont des montants qui sont monstrueux, c'est des milliards de dollars. Et donc, ça ne m'étonne pas ou ça ne m'intéresse. Ça ne m'étonne pas et ça me pose pas de problème au sens où de toute façon Uber a depuis le début été une machine à lever de l'argent, que ce soit auprès d'investisseurs ou auprès d'acteurs qui leur donnent de la dette. Et le jour où Uber décide d'aller public, ils l'ont mentionné, ce sera en 2019. Il y a des banques, je crois que c'est Morgan Stanley qui a dit qu'il pourrait atteindre la valorisation de 120 milliards. Ce qui est absolument cataclysmique pour une boîte qui rentre en bourse. Ce serait, je crois, le plus haut montant pour une boîte de tech. Quand tu mets tout en rapport, un milliard par-ci, un milliard par-là, c'est, tu vois...
un milliard par-ci, un milliard par-là.
Je sais que ça paraît étonnant, mais c'est vrai que c'est qu'un milliard, quoi.
Ouais. D'accord. Intéressant, effectivement, de voir le regard que portent les gens qui naviguent dans ce genre d'univers sur ces chiffres-là. C'est vrai que, vu d'ici, c'est pas tout à fait le même. Un milliard, bon. Dernier sujet sur lequel je voulais avoir ton regard, c'est cette histoire d'Amazon qui a négocié la création de son deuxième QG. Pendant des mois, pour ceux qui suivent cette histoire, c'était une sorte de roman. Pendant des mois, ils ont dit qu'ils voulaient un deuxième QG quelque part. Et ils sont allés faire le tour de plusieurs villes et plusieurs États aux États-Unis. On parle d'un QG américain, évidemment. Ils sont allés demander, alors vous nous faites quelles conditions, vous nous faites quelles conditions, etc. Pour, au final... rester sur des bureaux qu'ils avaient déjà dans la zone de New York. Et ils ont... Alors, il y a New York et si je ne m'abuse... il y a deux, en fait, mini-extensions ou plutôt grandes extensions de bureaux qui existent déjà plutôt que la construction d'un grand nouveau QG. Et là, on a un peu l'impression qu'Amazon a... berner tout le monde, parce que évidemment il y avait de nombreuses villes et de nombreux États qui leur déroulaient le tapis rouge, qui leur proposaient des avantages en taxes, en avance, en machin, en tout ce que vous voulez, pour amener les bureaux et amener le développement économique que ça implique. Et Amazon a dit finalement non, on va rester dans le Queens et dans je sais plus quoi, et on va agrandir les bureaux qu'on a déjà. Et ils ont du même coup récupéré 1,5 milliard d'avantages en taxes, en machin, en trucs sur 10 ans. Hein, quand même, c'est pas 1,5 milliard dans la poche en un an, mais c'est des avantages sur 10 ans. Et là, moi, j'ai un peu l'impression de voir une sorte de négociateur qui a enflé tout le monde en faisant jouer, en fait, l'idée qu'ils allaient aller ailleurs était simplement là pour négocier de meilleurs avantages avec, je ne sais pas qui, la ville de New York, l'État de New York, pour avoir de meilleurs avantages. Et autant je trouve que la tech a de moins en moins bonne image... Autant on peut se dire, oui, c'est de bonne guerre, voilà, tu négocies comme ça. Autant si je suis, moi, le responsable d'une des villes qui était concernée et que j'ai fait travailler mes équipes jour et nuit pendant des semaines pour essayer de séduire Amazon pour qu'ils viennent chez moi, je fais un petit peu la gueule, quoi. Est-ce que c'est business as usual, comme tu le disais, pour ce genre de choses? Ou est-ce que là, quand même, c'est un petit peu un sale coup qu'a fait Amazon à un moment où, franchement, la tech et Amazon n'ont pas besoin de ça?
Ouais, non, c'est ils ont vraiment géré ça comme des filous. Parce que, D'accord. comme tu le dis, un, le cahier des charges était clair. C'est on va construire un deuxième headquarter pour Amazon, on va créer 50 000 jobs, on va faire tout, on va pas le faire à Seattle parce qu'on veut en gros se démarquer de notre position actuelle et trouver un endroit où on peut absorber 50 000 personnes de plus. Donc il y avait toute cette publicité autour du processus. Comme tu le dis, ils ont travaillé sur une vingtaine de projets. Ils ont sollicité énormément d'avantages. En gros, ça a été la course à qui pouvait offrir le plus à Amazon. Donc, ils ont vraiment fait jouer le leverage au maximum. Et puis, in fine, ils se sont rendus compte que c'est pas facile de rajouter 50 000 personnes à un endroit particulier parce que ça pose des problèmes énormes en termes de logistique, en termes de c'est des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la vallée. Hein. On a rajouté des dizaines de milliers de jobs et on voit où ça nous amène. Et donc, plutôt et à la limite, ça a du sens de dire on va en faire deux plutôt qu'un, mais ils l'ont dit qu'au dernier moment, puis après ils sont retombés sur des trucs qu'ils ont déjà, et en gros t'as vraiment l'impression qu'ils ont pressuré tout le monde pour avoir plein d'avantages et qu'en gros ils ont niqué tout le monde quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Amazon n'a pas une bonne presse pour leurs pratiques, c'est des presses citrons. Il est bien connu que les gens qui travaillent dans les warehouses,
les entrepôts.
Les entrepôts ont une vie extrêmement dure et t'as l'impression qu'en fait le presse-citron, ils l'ont appliqué à ce processus aussi et franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et le fait qu'ils récupèrent tous ces milliards de taxes benefits parce qu'ils vont créer des jobs là où ils avaient déjà créé des jobs, c'est vraiment n'importe quoi.
Donc, ouais, donc là, sur ce coup-là, l'impression que j'ai est j'imagine est répercuté chez même dans le monde de la tech, c'est que au minimum tu regardes Amazon et tu dis ouais non là vous avez abusé quoi, surtout dans le contexte actuel. Bon, intéressant tout ça, merci bien pour ton avis sur tous ces sujets Jeff, ton éclairage est toujours précieux. On va faire une petite pause pour parler un petit peu de Patreon avant de passer à la partie news et rumeurs. Je crois qu'on va tenir dans une heure cette fois-ci, c'est pas arrivé depuis 1952, mais on va voir, ne vendons pas la peau de l'ours. On a encore plein d'avis à avoir et notamment de Marion dont on n'a pas entendu la voix jusqu'à maintenant. J'espère bien qu'on va l'entendre un petit peu plus après. Mais donc, qu'est-ce que je disais ? Le Patreon, oui, Patreon. Alors aujourd'hui, c'est la journée. Merci, merci patron. Thanks, j'ai oublié le nom du hashtag, c'est Thank You Patrons, et c'est l'occasion justement des créateurs qui réussissent à vivre de leur travail sur Patreon pour de remercier leur soutien, les personnes qui choisissent de les soutenir, et c'est un truc que je fais tout le temps et que je ne me lasse pas de faire parce que c'est vrai que quand je me suis lancé, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, où ça allait mener cette histoire de financement participatif. Et grâce à vous, ça fait 4 ans que c'est mon métier et c'est un métier qui me permet d'avoir, enfin grâce à Patreon, ça me permet d'avoir une stabilité dont je n'aurais pas pu rêver autrement. C'est une stabilité, c'est une sérénité qui me permet de me concentrer sur mon travail plutôt que sur d'autres choses comme le fait d'aller séduire des annonceurs comme Amazon le fait avec les différentes villes où ils veulent mettre leur QG. Sauf qu'avec moi, c'est vous qui avez tout le contrôle. Et j'aimerais lire deux témoignages, celui de Cédric qui dit « Pourquoi est-ce que j'ai donné une contribution ? Je donne une contribution. Parmi les raisons, il y a la qualité de ton travail sans discontinuité depuis 2007 que j'écoute le podcast. C'est devenu un métier, raison de plus de participer à cette autonomie, la facilité de faire que le passage sous Patreon a permis par rapport aux précédents essais, on avait fait des essais avec des cagnottes, des t-shirts, machin, ça n'avait pas bien marché. La communication franche sur toute l'animation autour du podcast. Et encore merci Patrick pour ce travail, merci à toi Cédric. Prozine Motion nous dit, la principale question qui m'est venue, et ça c'est une question intéressante, il se dit pourquoi pas, et surtout pourquoi pas déjà fait. Pourquoi il ne l'a pas déjà fait? Et en fait, il s'est rendu compte que ça faisait 4 ans qu'il écoutait l'émission et que je résumais bien l'actu, etc. Et donc, c'était vraiment la raison, c'était pourquoi ne pas donner? Alors, évidemment, une raison... Excuse-moi, Jeff, on entend beaucoup la circulation de ton côté.
Excuse-moi.
Il se posait la question, pourquoi ne pas l'avoir déjà fait? Évidemment, une des raisons, c'est si vous n'avez pas de quoi, évidemment, il n'y a aucun souci. Vous le savez, si vous êtes, si vous n'avez pas quelques dollars à mettre dans l'émission chaque mois, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation. Mais si vous appréciez l'émission et puis que peut-être vous avez un petit peu de sous de côté que vous pourriez réattribuer, eh bien, je serais très heureux de les recevoir. Ça serait un honneur pour moi de recevoir votre argent si vous appréciez l'émission. Donc, merci à tous ceux qui le font. Merci à Cédric, à Prozine Motion et à tous les autres. Et thank you, patrons. C'est vraiment un truc que... je n'imaginais pas possible au moment où j'ai commencé à faire des podcasts dans ma chambre, dans mon petit studio, il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est grâce à vous que c'est possible. Donc, un immense merci. Continuons avec les news et les rumeurs. Le Bitcoin, vous vous souvenez, il était à presque 20 000 dollars il y a un an, en décembre 2017. Savez-vous à combien il est aujourd'hui ? Je vous pose la question, je vous laisse penser une seconde. 5 000. Il vient de passer sous la barre des 5 000 $. Du coup, Marion, toi qui avais acheté pour 250 000 $ de Bitcoin, tu te retrouves un peu embarrassée, n'est-ce pas?
Ah bah oui, tout à fait. Non, mais je connais pas mal de personnes qui avaient misé sur les crypto-monnaies, pas que les bitcoins, mais les crypto-monnaies de manière générale. Et c'est vrai qu'à l'époque où ça fluctuait beaucoup, ils avaient tendance à jeter un œil un peu trop souvent dessus. Mais justement, je me demande ce qu'ils penseraient justement aujourd'hui.
Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a un an, quand ils étaient à 20 000, on se demandait jusqu'où ça allait aller. On se disait peut-être qu'à ce moment, c'était encore le moment d'investir. Je crois que Jeff, t'étais pas hyper séduit par les mirages des bitcoins.
Non, j'ai toujours été un bitcoin ou un crypto
crypto-sceptique. Ouais.
Sceptique, parce que même si fondamentalement le concept est super intéressant, le fait qu'il y avait une valeur qui n'arrêtait pas d'augmenter sans aucune raison, à la fin, c'est if it's too good to be true. Ouais. Donc
c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a un truc.
Pour être vrai, c'est que ça l'est. Ouais. Et donc, je sais pas, il y a une valeur à Bitcoin ou à Ethereum, etc. Je crois que la technologie blockchain éventuellement un jour deviendra utile et intéressante, mais de là à ce que, avec la spéculation qui y a eu, où en fait le marché est manipulé par des gens, surtout en Corée, en Chine, etc. Et donc tous les pauvres Pékin qui ont investi dans le Bitcoin, quand je suis du Bitcoin à 20 000 $, ils verront jamais leur argent. Mmh. Et malheureusement, vu le fait que le système est complètement non transparent, t'as aucune idée de qui fait quoi, c'est pas régulé, t'as aucun moyen de te retourner contre quiconque. Et puis voilà quoi. Donc
ouais, c'est intéressant de mettre ça en parallèle avec l'histoire sur Snap, justement, au début de l'émission, où, effectivement, c'est très régulé, contrairement à ce qu'on peut penser, ou l'image de Far West qu'on peut avoir sur toutes ces histoires, peut-être même vue d'Europe et de Paris. Et là, c'est effectivement, pour le coup, si on veut le Far West, les crypto-monnaies, c'est un peu ça. Mais c'est marrant parce que l'une des raisons de la chute de la valeur du Bitcoin est aussi la perspective de régulation par les gouvernements. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi, en quelque sorte. Alphabet a annoncé qu'ils avaient abandonné le projet de lentille de contact qui capte la quantité de glucose pour aider les personnes souffrant de diabète. C'était un petit peu, là aussi, on parle de chimère, c'était un petit peu une chimère qui avait un potentiel énorme, mais ils se sont rendus compte, en fait, que tout simplement, la quantité de sucre dans les larmes, qui étaient donc ce que mesuraient ces lentilles de contact, n'était pas fiable. Et donc, c'est, alors je dis Google, mais c'est Alphabet, la société Verily qui s'occupe des avancées scientifiques dans le domaine de la santé. Je suis pas sûr de savoir quoi penser de cette histoire. C'est à la fois... Enfin, d'un côté, mon petit diable qui est sur une épaule me dit « Ah, tu vois comme ils sont bien foutus de la gueule de tout le monde. Évidemment que c'était n'importe quoi, on le savait depuis le début. » Et de l'autre côté, il y a mon petit ange qui dit « Non, mais enfin, des gens qui reconnaissent que leur produit n'est pas viable, ils ont tenté, mais là, ils font les choses honnêtement, quoi. » Et ils disent « Bah non, ça marche pas, on a essayé, ça marche pas, donc on abandonne. » Je ne sais pas s'il y a une version qui est forcément plus vraie que l'autre, mais moi, c'est ce que ça m'inspire.
Bah, c'est la vérité. Enfin, c'est notre jour le jour. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va investir dans 100 startups qui ont toutes des plans plus ambitieux les uns que les autres, surtout celles qui sont les plus ambitieuses, ont une probabilité de succès qui est très faible et que donc sur une centaine de boîtes, on va en perdre au minimum 30 ou 40 qui vont partir en vrille pour des raisons diverses et variées. Mais in fine, on a besoin de croire sur le potentiel. Tu vois, quand j'ai investi dans Molécule il y a 3 ans, c'était pas évident, hein, que la technologie allait fonctionner. Que oui, on parle de molécules, mais enfin c'était moi qui était le lead de leur tour de seed.
Ouais,
et c'était un pari sur des fondateurs et sur malheureusement un besoin de la planète lié à la pollution qui ne fait que s'aggraver. Et quand j'ai amené cette opportunité à mes partenaires et puis à mes investisseurs, ils ont dit un purificateur d'air. C'est intéressant, Clavier, c'est intéressant. Voilà, quoi.
D'accord. Et alors, tu parlais de 30 ou 40 sociétés. Il y en a combien qui se plantent ? Rappelle-nous ce chiffre que tu évoques souvent.
Tu investis sur 100, tu en as une 30 à 40 qui partent en vrille complètement, qui ne font rien, qui se plantent, leur business ne fonctionne pas, la technologie ne fonctionne pas, la science ne fonctionne pas. Tu en as une trentaine qui vont faire tu vois, une petite sortie, on va peut-être réussir à récupérer un peu d'argent, mais en gros, on s'en fout. Et c'est les derniers 30% où tu vas effectivement avoir une belle sortie qui va te générer la performance pour ton portefeuille. Et quand tu regardes bien, de toute façon, c'est les 10 boîtes de ton portefeuille qui font le plus de performance, qui vont te générer tellement de retours que c'est les seuls qui sont importants. Tu vois, par exemple, dans notre fonds 2, on avait Fitbit, SendGrid et Eventbrite qui ont toutes été sur les marchés publics. Et donc, on a fait tellement de retours sur ces trois-là que c'est pas que le reste n'a pas d'importance, mais en gros, ça n'a pas d'importance.
D'accord. Effectivement, il faudrait qu'on fasse un épisode spécial sur ces sujets. On en reparlera. Il y aurait une discussion à avoir spécifiquement là-dessus. Google Pixel, vous connaissez ces téléphones ? Eh bien, ils ont été mis à jour avec la technologie, comment ça s'appelle ? NightSight, qui utilise le machine learning et la captation de multiples images pour transformer une image sombre, prise de nuit, avec quasiment pas de lumière, en image de jour, ou pas de jour, mais enfin assez bien éclairée. Et il faut avouer que c'est hyper impressionnant comme technologie. Et elle a été, donc c'est une technologie entièrement logicielle qui a été incluse dans les tout premiers pixels, en plus des pixels 2 et 3. Là, pour le coup, je me retourne enfin vers Marion. Ça, c'est un truc que tu suis d'un petit peu plus près, j'imagine, ce type de technologie et ce type de technologie photo surtout. Moi, j'ai vu quelques clichés, c'est hyper impressionnant quand même, et c'est fait uniquement en logiciel. Il n'y a rien d'équivalent dans les appareils photo qu'on connaît aujourd'hui, quoi, à part ça.
Non, c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant les performances du Pixel 3 là. On l'a testé un petit peu sur la chaîne. De ce que je crois me souvenir, parce que alors, c'est pas moi qui le teste personnellement.
Attention, là on parle du NightSight, hein, du truc qui affiche comment dire, qui change l'image pour la transformer en image bien éclairée, alors qu'à la base, c'était une image quasiment de nuit, quoi.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais. Mais ça vient d'être ajouté au pixel, hein. C'est pas le pixel tel qu'il était à l'origine. C'est pour ça que j'en
oui,
parle.
Non, mais c'est une fonctionnalité qui était présente sur le dernier pixel.
Alors c'est peut-être moi qui me plante. J'avais l'impression que ça venait d'être ajouté à tous les pixels, y compris le pixel 3. Peut-être que
c'est possible que ça soit disponible sur les autres pixels. En tout cas, moi, je l'ai vu en action sur le dernier, puisque Jérôme est en train de tester le dernier. Je ne peux pas savoir si en effet c'est dispo sur les
d'accord.
autres. C'est possible, puisque c'est une mise à jour logicielle.
Je croyais que c'était tout nouveau, que c'était arrivé il y a 2 jours. Mais je me trompe peut-être.
Ah, d'accord. Je pense pas, il me semble pas. Peut-être pour les autres téléphones, mais
d'accord,
en tout cas,
okay.
Moi, j'ai vu, en effet, et on a déjà testé un petit peu l'effet, et c'est assez impressionnant, vraiment. La qualité est assez bluffante. Après, c'est vraiment... Enfin, c'est là où on se pose la question où c'est quoi l'intérêt d'essayer de prendre une photo dans le noir? Parce que quand tu vois les clichés, c'est ça. Hein. C'est vraiment essayer de prendre des photos dans le noir. Ouais. Et il y a quand même un effet de bouillie de pixel. Là, on ne le voit pas trop sur les clichés. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Tu vois les portraits, certains portraits, il y a quand même une vraie bouillie de pixel derrière. Et tu demandes vraiment l'intérêt. Quoi. C'est vraiment pour prendre des photos dans des conditions juste impossibles, quoi.
Ouais,
je trouve pas ça très intéressant, moi, personnellement, parce que c'est pas ce que je recherche dans la prise photo, mais c'est au lieu d'apprendre un petit peu les contraintes de la photo et non, mais de comprendre l'intérêt aussi et l'importance de la lumière dans la qualité d'un cliché, en fait, on va essayer de recoller les morceaux. Donc, c'est un petit peu... Voilà.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un truc un petit peu artificiel. Je crois que pour des puristes de la photo comme vous, vous l'êtes sur Nowtech, ça vous paraît hyper gadget. Moi, je crois que pour les gens, entre guillemets, normaux, pour reprendre la formulation de certains, tu vois, pour les gens qui ne sont pas des élites de la photo, c'est pour prendre des photos, je ne sais pas, en boîte ou dans... la nuit quand t'es en train de marcher avec des amis et ça rend quelque chose. Enfin, là on en parle, mais peut-être que les gens s'en rendent pas bien compte. Essayez d'aller chercher des clichés et des tests de ce mode sur YouTube ou sur le web. C'est hyper impressionnant la manière dont ça capte de la lumière en prenant... C'est un petit peu du HDR, mais puissance 10, quoi. Il prend, je sais plus combien, 10-15 photos et il réunit les informations de toutes ces photos en compensant pour les petits mouvements de la main. Et c'est vrai qu'il fait un truc artificiel, mais c'est un truc qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à maintenant avec quasiment aucun appareil, quoi. Donc...
C'est sûr que là où je suis d'accord avec toi, c'est en effet pour tout ce qui est photos de soirée, photos entre amis, enfin
ouais,
vraiment les
ça,
souvenirs
ouais.
quoi. Ouais. Ça va être super parce qu'en effet on va pouvoir enfin avoir des clichés pour se rappeler les soirées en boîte ou mal éclairées, etc. C'est pas une fonctionnalité qui est là pour les personnes qui aiment prendre des photos, clairement.
C'est vrai, ouais.
C'est juste pour se souvenir d'un moment et en effet en même temps c'est un des premiers usages de la photo aussi, hein. C'est pour se remémorer un moment passé avec des personnes.
C'est ça, ouais.
Donc ça sera utilisé et c'est intéressant quand même que Google travaille dessus, mais c'est voilà,
c'est pas pour faire des belles photos, quoi. C'est,
exactement.
C'est sûr.
Faut pas confondre en fait les deux usages.
Et donc, c'est intégré effectivement au Pixel jusqu'au premier du nom. Et une rumeur dit que Google travaillerait sur un Pixel 3 Lite, donc une version un petit peu moins chère du Pixel 3, à voir si cette rumeur sera confirmée. Et tant qu'on parle de production de téléphone, il y a de plus en plus de sources qui semblent indiquer que iPhone a réduit le nombre de commandes pour la fin d'année de son iPhone XR. Donc, il semblerait que l'iPhone... moins cher, entre guillemets, hein, pour un iPhone, qui était censé se vendre comme des petits pains parce qu'il a, et tout le monde l'a dit, et moi y compris, nous aussi, parce que c'était quasiment toutes les fonctionnalités de l'iPhone XS, mais pour 200 ou 300 dollars de moins. Et c'était vraiment l'écran qui changeait, et c'était quand même un écran de très bonne qualité. Et ben, il semblerait qu'il se vende. Alors, il s'en vend quand même beaucoup, mais il s'en vend moins que ce qu'estimait pouvoir vendre Apple. Donc, il réajuste la production. C'est intéressant parce que c'est encore une fois, les prédictions étaient qu'il allait se vendre comme des petits pains. Il semblerait que pour 200 ou 300 dollars de plus, les gens préfèrent acheter peut-être, hein, à voir quand ils parleront des chiffres, encore que Apple va plus parler des chiffres de vente d'iPhone comme on l'expliquait la dernière fois. Mais il semblerait que les gens préfèrent mettre 200 ou 300 dollars de plus pour avoir un iPhone XS. Ce qui finalement, quand on est déjà à 800 dollars ou 800 euros, on se dit, bon, bah, je vais en mettre 200 de plus et avoir le vrai, quoi. Intéressant.
C'est marrant parce que ça rappelle un petit peu les conclusions entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10.
Ouais, 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 tout dernière. À fait. Ouais. Jeff, vas-y.
Ouais, non, le truc, c'est un iPhone, c'est un produit de luxe. Tu veux te faire plaisir quand tu l'achètes. Et donc, avoir un iPhone tout neuf, mais pas avoir le top du top, je pense que c'est fondamentalement une erreur. C'est, ouais. C'est pas un truc que tu vas acheter au discount. C'est pas un téléphone Android. Oups.
Ce que je dirais sur cette comparaison un petit peu trollesque que tu fais, je dirais que sur l'iPhone, si tu veux un iPhone moins cher, tu vas prendre un iPhone de l'année dernière ou d'il y a deux ans. Alors que si tu veux celui de cette année, bah tu vas pas prendre celui de cette année qui est un petit peu celui au rabais, quoi. Donc il y a un petit peu de ça aussi, effectivement, Jeff. Je crois que t'as pas tort. Les gens qui veulent des iPhones, ils veulent l'iPhone super iPhone, quoi. Donc il y a peut-être.
Et
de
puis
ça.
Si jamais t'as pas besoin d'une upgrade, tu vas pas l'acheter. Donc c'est le truc. En fait, ils ont pas différencié suffisamment, à mon avis. Il leur faudrait vraiment un truc entrée de gamme beaucoup moins cher, ouais. Parce que quand tu vois en fait le prix du truc, si tu peux payer 700, tu peux payer 1000, ou pas, tu vois.
Ouais, tout à fait. Ouais. Sony ne va pas être présent à l'E3. Alors là, on parle de jeux vidéo un tout petit peu, mais c'est hyper significatif pour l'industrie. On a vraiment une annonce qui vient ébranler l'industrie du jeu vidéo. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Sony ne sera pas présent à l'E3, et on peut spéculer sur le fait qu'ils seront présents en 2020 pour tout un tas de raisons ou pas, mais c'est très intéressant de voir que même le jeu vidéo semble être en train de suivre la tendance de la tech, où les grosses sociétés se passent des autres, se passent des gros événements, des trade shows de l'industrie, et a priori, dans le cas de Sony, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais suivent cette tendance de, bah, si on a besoin de communiquer, on peut le faire nous-mêmes et établir nos conditions. On n'a pas forcément besoin de ces reliques d'une époque où il fallait que tout le monde soit présent au même endroit. Et c'est important parce que Sony, l'un des gros constructeurs de consoles, était l'un des piliers de l'E3. Leur conférence était l'une des plus importantes. C'est un événement qu'il fallait évoquer. C'est la première fois qu'ils n'y sont pas. On en parle beaucoup plus dans le rendez-vous jeu, donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller écouter le rendez-vous jeu. Quoi d'autre ? Instagram est en train de publier son dashboard, donc qui donne aux utilisateurs des informations sur le temps qu'ils ont passé dans l'app et des outils de limitation, etc. Ça me donne l'occasion de vous demander, est-ce que vous avez utilisé les outils de limitation et de contrôle qui ont été implémentés dans les iPhones et les Android ces derniers mois, ou est-ce que vous en foutez, vous utilisez quand même votre téléphone au maximum? Je demande à Jeff, qui est quelqu'un de très occupé, qui dans les années 80 aurait eu sa valise téléphone portable pour être quelqu'un de montrer comme il est important, n'est-ce pas ? Est-ce que tu es toujours sur ton téléphone autant ?
Donc je dénie avoir eu la valise, ou je dis rien sur la valise ? Non, c'est...
Attends, une seconde.
Parce que non, des fois, t'en as besoin, c'est tout.
Non, mais attends, t'as ouvert la porte, Jeff, t'avais la valise ?
Non, on avait le téléphone dans la voiture. Tu sais, du temps où c'était, t'avais le énorme machin. Mais c'était dans la voiture de la boîte. C'était pas la mienne.
C'était pas dans ta voiture personnelle. Ok, alors ça passe. Ok.
Non, j'ai joué avec. Je regarde un peu de temps en temps parce qu'il te montre en fait.
Ouais, toutes les semaines, il t'envoie le rapport.
Et de toute façon, la plupart de mon activité, c'est le mail, c'est Google Maps. C'est Life360 qui est l'application qui permet de savoir en gros où est la famille qui tourne dans le background. Ouais, je passe beaucoup de temps sur Facebook, mais c'est pas un problème. Puis de toute façon, c'est pour le boulot, j'ai pas le choix.
Ah, c'est pour le boulot, cette fameuse excuse que je connais bien. D'accord. Marion, toi, tu as essayé de limiter ton utilisation de tes téléphones avec ces fonctionnalités ou...
J'ai un peu la même excuse.
J'aime bien de tes téléphones.
Ouais, non, j'en ai qu'un quand même, hein. Il faut pas exagérer. Mais j'ai un peu la même excuse que Jeff, pour le coup. C'est quand j'utilise au boulot, c'est un outil de travail, vu que je teste les applications dessus. Mais en fait, je viens d'ouvrir pour la première fois le rapport d'activité, donc c'est pour te dire combien je l'utilise. Et en fait, c'est tout à fait raisonnable, hein. Activation, 35 par jour, je trouve pas ça déraisonnable.
Ça va, deux fois.
Une fois par heure. Donc tu vois...
Ouais, il y a 35 heures dans la journée, c'est vrai que tu travailles beaucoup.
En moyenne. mais voilà, tu vois, c'est
et
raisonnable. Hein,
je suis tout
à fait modéré.
Bon, moi, je ne l'utilise pas du tout, en fait. Je me suis rendu compte que je le regarde, le rapport, et puis c'est tout. Jeff, je sais que tu dois y aller. Merci beaucoup de ta participation. Bon courage pour ta journée chargée qui arrive. Et puis, bon courage surtout pour la pollution.
Merci pour tout. Et puis, on vous retrouve d'ici un mois. Et comme c'est Thanksgiving jeudi, comme on dit ici, Happy Holidays à tout le monde.
Ah bah oui, ça y est, ça commence. Merci beaucoup. Bonnes vacances à toi aussi. Et puis, dans un mois à peu près. Ciao.
Ciao.
Ouais. Bye.
La 5G est en train d'être implémentée un petit peu partout. Alors, on a encore un exemple. La société EE en Angleterre est en train de l'implémenter dans les parties les plus busy, les plus occupées, les plus passantes des grandes villes. Alors, on parle de Londres, Cardiff, Édimbourg, je parle anglais, etc., etc. C'est intéressant de voir la manière dont la 5G est implémentée au début. C'est vraiment dans les centres des villes, dans les endroits les plus occupés. Pourquoi ? Pour décharger les réseaux 4G. Donc, c'est important à savoir, ça veut dire que quand on va commencer à nous vendre des téléphones 5G, les réseaux seront visiblement, en tout cas dans ce cas-là, mais j'imagine qu'ils suivent tous un petit peu la même feuille de route, les réseaux seront implémentés dans les endroits où il y a le plus de trafic, il y a le plus de passages, et ça sera pour désengorger le réseau 4G plus que pour apporter un réseau 5G hyper performant. Et en gros, l'utilisation de la 5G pour les vitesses de téléchargement incroyables, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour ça que ça va être utilisé dans l'année 2019 et peut-être même 2020. Donc c'est important à savoir. L'Europe est en train de réfléchir à l'encadrement du prix des communications entre les pays européens. Ça, c'est une bonne chose. Vous savez que la data a été encadrée, le prix de la data et le roaming a été imposé par l'Union européenne, alors que les opérateurs se faisaient beaucoup, beaucoup d'argent facile là-dessus. Ça a été encadré par l'Union européenne et les communications vont sans doute... Enfin, en tout cas, ils étudient la possibilité de faire rentrer les communications dans ce même cadre. Ça serait pas mal non plus. J'avoue que moi, ça me faciliterait un petit peu la vie. Mais je suis peut-être particulier. Mais toi, tu voyages, non, Marion.
Oui, je pense que quand même, il faut réaliser qu'on a la chance en Europe d'avoir la possibilité de voyager avec des pays qui sont quand même à proximité. Hein. Il faut quand même réaliser la différence entre lorsque l'on vit aux États-Unis et lorsque l'on vit en Europe. Ce n'est pas les mêmes distances pour changer de pays. Donc, c'est quand même très bien. Et encore une fois, ça peut permettre à l'Europe d'être beaucoup plus solide aussi.
Ouais, il y a un petit peu de ça, mine de rien. Cette unification passe aussi par ce genre de choses. Et puis, c'est... Bon, je suis un pro-européen convaincu, et puis surtout après les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale, c'était intéressant parce que je parle sur de la politique juste une seconde, mais il y a eu de nombreuses personnes qui ont expliqué et dit à quel point le cadeau le plus important de l'Union européenne était la paix. Et c'est une paix à laquelle on ne pense plus aujourd'hui parce qu'elle dure depuis tellement longtemps. Et moi, c'est exactement ce que je dis depuis que l'Europe est remise en question par certaines tendances nationalistes depuis des années. Et je ne sais pas, c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus âgé que beaucoup et que pour moi, le souvenir des décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale est encore fort. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, je ne sais pas. Mais mine de rien, pour revenir à la question de la tech, c'est aussi ce genre de choses qui sont possibles avec un travail en commun fort créé par cette union. Et ça permet de faciliter les choses entre les pays et la coopération est importante à ces niveaux aussi. Donc, bref, la data, c'est cool. Et les communications entre pays européens et le roaming, c'est bien aussi. Tiens, parlons un petit peu des dangers et de ce que font les États pour se prévenir contre les dangers différents que peuvent occasionner le net et le cybermonde en général. La France a là encore implémenté une directive européenne qui s'appelle... la NIS, c'est ça, la Network and Information System Security, c'est-à-dire qu'il y a une directive européenne qui disait qu'il faut identifier les opérateurs essentiels, les opérateurs de services essentiels dans chaque pays et imposer des mesures de sécurité importantes pour s'assurer qu'ils continuent à opérer, qu'ils sont plus difficiles à hacker ou impossibles à hacker et que les services essentiels sont protégés des attaques. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de ces choses-là depuis tellement longtemps, genre, tel type de, je ne sais pas, les centrales hydrauliques ne sont pas bien protégées, elles tournent sous Windows 95 et c'est impossible à changer parce qu'il y a tous ces systèmes, machin. C'est des trucs dont on parle depuis des décennies, bon, j'exagère un peu, depuis des années, et on parle souvent de ces trucs quand on réalise qu'il y a des problèmes, mais on n'en parle pas souvent quand les gouvernements font ce qu'il faut pour les protéger. Et là, alors, la France avait déjà initié ce genre de choses sur certains opérateurs hypersensibles, mais là, il y a vraiment une impulsion qui vient d'en haut, du gouvernement, pour sécuriser toutes ces choses-là. Et c'est hyper important. Ça, c'est anecdotique, on peut en rire, mais c'est hyper, hyper important. On se doute bien que si un jour il y a... alors, on pense tout de suite à l'électricité. S'il y a une centrale électrique qui est coupée pendant plusieurs jours parce qu'il y a un virus qui s'est multiplié, machin, c'est des scénarios de films d'horreur ou de thrillers politiques, mais... Si ce genre de choses se produit, c'est catastrophique pour le pays. Ça peut mener à... Enfin, je ne sais pas, moi, je vis à la campagne. Je me rends compte que si j'ai plus d'électricité un jour, et au bout de... Enfin, quelques heures, ça va. Au bout de quelques heures, je suis perdu. Je veux dire, j'ai plus de communication. Les téléphones mobiles ne restent pas très longtemps. Il y a des batteries, enfin, même des accus dans les tours, mais ça dure, je sais pas, 2 heures, même si ça dure 24 heures, au bout de 24 heures, tu fais quoi ? Tu sais même plus ce qui se passe nulle part, quoi. Donc, j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, enfin, peut-être qu'il faudrait que j'ai une radio, quelque part, qui
il
marche à pile.
Il est en train de penser au scénario catastrophe,
ouais,
là.
C'est ça,
l'angoisse
c'est ça.
Qui monte.
Faut que je commence à avoir de l'eau en bouteille quelque part, tu sais, dans un abri atomique, machin.
Mais ça va, t'as un puits.
Oui, c'est vrai, j'aurai au moins de l'eau, on va pas mourir de soif, c'est pas faux. Et puis il y a des biches dans le coin, si on apprend à chasser, ça fera
ça,
à manger aussi.
Ah ça, je veux
aussi.
Voir ça, hein. Patrick qui va partir à la chasse à la biche.
Écoute, j'ai beaucoup joué à Tomb Raider, je pense que je suis prêt. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais bon, bref, on rigole, mais ce genre d'initiative aussi, c'est quelque chose d'hyper important, je trouve.
Oui, je pense que c'est une bonne, encore une fois, c'est bien de communiquer autour de ça. C'est ce qu'ils disent, plus de 200 opérateurs publics ou privés, hein, quand même, dont les activités ont été justement cataloguées comme, labellisées comme indispensables au bon fonctionnement et à la survie de la nation. Ça donne le ton, quand même. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, ils veulent garder cette liste confidentielle pour des questions de sécurité nationale. Mais du coup, on peut spéculer justement sur quels sont les besoins primaires de la nation et dans quel ordre de priorité on a les différents services qui peuvent tomber. Donc tu disais notamment l'électricité, la communication, parce que alors si le gouvernement ou la nation n'est plus capable de communiquer, ça peut aussi créer des vrais mouvements de panique,
bien sûr,
voilà, des meutes, etc. Donc c'est assez intéressant justement de voir que des mesures sont prises pour protéger ces services indispensables.
Et c'est vrai que l'informatique est tellement présente partout que nous, on pense tout de suite à l'électricité parce que c'est électrique, donc tech, mais l'informatique, évidemment, gère tout, mais c'est des trucs auxquels on ne pense pas forcément. J'imagine qu'il y a des trucs comme les systèmes d'égout, d'évacuation, de purification d'eau. Enfin, tous ces trucs-là aussi, ça fonctionne sur des systèmes informatiques qui doivent être, enfin, qui sont vulnérables d'une certaine manière, mais qu'il faut contrôler, quoi. Donc, c'est des trucs essentiels et c'est rassurant de se dire que je ne sais pas si personne s'en occupait avant, s'il y avait une initiative en France, comme je le disais, mais j'imagine qu'elle n'a pas commencé en 2000, l'initiative. Donc, c'est rassurant de se rendre compte que, bon, bah, on s'en préoccupe aujourd'hui. Et puis, il y a une dernière chose, je ne savais pas si j'allais en parler, mais on va peut-être l'évoquer très rapidement. Il y a eu encore un scandale sur Facebook, encore un, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, moins en France, mais en gros, c'est lié à la réponse qu'ils ont amenée aux problèmes de fake news qui se sont fait jour au printemps 2016, avec le début de l'activité russe sur le réseau. Et ils ont, en gros, c'est le New York Times qui a publié un article assez, comment dire, un petit assez complet, mais un petit peu romancé sur... romancé n'est peut-être pas le bon terme, j'exagère, mais on va dire avec une narration appuyée sur la manière dont Facebook a géré ça et sur leur technique. Et ils ont dit Facebook a d'abord nié et puis ils ont diminué l'importance, essayé de diminuer l'importance des problèmes, etc. Et ils ont engagé une société qui s'appelle Definers Public Affairs, qui est une société très partisane, qui a essayé de... Enfin, qui a... essayer de mettre la responsabilité de la chose sur George Soros avec des relents d'antisémitisme, ce qui sont évidemment assez inacceptables. Et surtout, ils mettent en cause la responsabilité de Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg directement. Alors, Facebook a répondu en disant il y a des inexactitudes dans la manière dont c'est parlé, dont c'est raconté, etc. Mais ils n'ont pas non plus nié le fond de l'affaire. Évidemment, ils ont dit sur le Definers Public Affairs, c'est une société de opposition research, ce qu'on appelle l'opposition research, c'est la recherche sur ton opposition politique. Tu vas essayer de chercher tous les squelettes qu'ils ont dans les placards et parfois même essayer si ce n'est pas d'en inventer, au moins de grossir le trait sur certaines choses. Et comme je le disais, ils sont très très partisans. Et donc, Zuckerberg a dit « Ah oui, non, mais une fois qu'on s'en est rendu compte, on les a renvoyés tout de suite, c'est pas ce genre de pratique qu'on fait. » Mais en même temps, il a envoyé un message à toute la société en disant « Ne vous avisez pas d'aller parler au New York Times ou aux journalistes, nous on n'a pas besoin de ce genre de choses, on gère les choses nous-mêmes, etc. » Enfin, c'est une histoire de plus qui vient entacher la réputation de Facebook. Et même si certains diront « Ah, mais Facebook, on leur fait plus confiance depuis longtemps », parmi ceux qui faisaient encore confiance à Facebook dans le sens « au moins, ils essayent », il y en a beaucoup qui se disent « Non, mais là, c'est plus possible. Il y a trop de je ne veux pas dire de preuves, mais il y a trop d'éléments qui laissent penser que... même si sur certaines choses, ils essayent, ils ne font pas les choses assez bien, tout court. Ils ne font pas les choses bien. Et ça complique énormément la relation des employés par rapport à Facebook, par rapport à l'employeur, des utilisateurs par rapport à Facebook. Bien sûr, elle était déjà compliquée. Mais je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé en France, mais c'est une affaire qui est vraiment venue éroder l'image de Facebook encore plus, peut-être à cause de tout ce qui s'était passé avant, mais je crois encore plus que ce qui s'était passé avant. Et là, on arrive, je crois, on n'est pas loin d'un point critique qui ne veut pas dire que Facebook va... les gens vont se mettre à arrêter d'utiliser Facebook parce que, de fait, il n'y a pas d'alternative à Facebook, donc on est un petit peu obligé de les utiliser. Mais... on arrive à un point où la confiance du public et de la sphère politique est tellement faible envers Facebook que ça risque de casser un truc, quoi. C'est une affaire de plus et je voulais l'évoquer. Et tiens, j'en profite pour reparler d'un sujet qu'on a évoqué la dernière fois, qui était cette idée que le gouvernement va aller valider les processus de Facebook qui vont ensuite les utiliser tels qu'ils ont été validés par le gouvernement. C'est une initiative qui va se faire en France dans l'année 2019, si tout va bien. C'est encore une fois une méthode d'appréhender les problèmes, une méthode innovante d'appréhender les problèmes de toutes ces grandes sociétés de manière à diviser le travail, valider les méthodes de manière à ce qu'ils puissent dire bon bah ok, on fait ces méthodes que vous avez acceptées, et ensuite c'est eux qui font le gros du travail. C'est vraiment une approche hyper intéressante et qui pourrait offrir une solution à ces soucis qu'on a depuis des années de gestion des contenus sur ces réseaux dont personne ne veut prendre la responsabilité. Là, la responsabilité théorique est engagée pour les gouvernements et la responsabilité pratique d'implémentation est engagée pour les réseaux. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes et c'est une solution qui est imaginée par la France. On verra si ça se passe bien, mais c'est une solution qui pourrait au moins satisfaire sur la méthode, à voir si ça se passera bien.
Tu as une idée de quel organisme se chargerait de faire ça ?
Non, alors comme on le disait la dernière fois, ça reste à déterminer. Ça sera certainement un organisme lié à la tech et un organisme gouvernemental lié à la tech. Alors est-ce que ça va être l'ANSSI ? Est-ce que ça va être, il y a même le... je ne sais plus, enfin il y en a plusieurs qui ont été proposés, mais ce n'est pas encore déterminé. Mais a priori, l'ANSSI serait bien placé, il y en a quelques autres qui pourraient le faire, quoi.
D'accord.
Et donc voilà... Pour cette histoire, pour conclure, on pense que la régulation de ce genre de réseau n'est peut-être pas si loin aux États-Unis non plus. Et pour le coup, l'Europe est clairement en avance. Bon, allez, on va conclure cet épisode avec un tout petit peu plus d'une heure. Mais tout de même, on est resté presque dans les clous. Avant de se quitter, Marion, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Eh bien, vous pouvez me retrouver chaque semaine sur la chaîne YouTube Naotech ou tout simplement sur Twitter au pseudo Aizea Design.
Le lien sera dans les notes de l'émission parce qu'il est un petit peu compliqué à épeler. merci Marion. Jeff est @Jeff sur Twitter. Vous pouvez aller lui dire bonjour de notre part là-bas. Et moi, je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et bien sûr, vous retrouvez l'émission sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez venir nous laisser des commentaires sur ce qu'on a dit, si c'était intéressant, amusant, distrayant, intelligent ou tout le contraire. N'hésitez pas à venir nous le dire sur le blog de l'émission FrenchSpin.fr. Et bien sûr, vous le savez, patreon.com/rdvtech, le meilleur business model du monde. Vous pouvez soutenir l'émission comme vous le souhaitez. Vous pouvez soutenir sur le nombre d'épisodes que vous voulez par mois. Pour la somme que vous souhaitez, vous pouvez voir les récompenses qui sont disponibles pour 1$, 3$, etc. N'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est grâce à vous que l'émission existe. Et encore une fois, thank you patrons. C'est vraiment une aventure qui ne serait pas du tout possible sans vous. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Et si vous voulez vous aussi entrer dans la danse, parce que ça fait quelques mois, quelques années que vous suivez le Rendez-vous Tech, et ben c'est hyper simple. Le lien est dans les notes de l'émission. patreon.com/rdvtech. Ça se fait en 2 minutes. C'est hyper facile et je vous encourage à le faire. Merci à vous tous et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Bye.